Nous demain. Une émission de Jean-Pierre Estrampe. Architecture, urbanisme, cadre de vie. À tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'IA et de l'architecture. Bon, c'est un sujet assez récurrent, mais que vous entendez sur toutes les ondes et que vous voyez sur toutes les télévisions qui nous annoncent pour certains un futur plus agréable où on travaillera moins, puis pour d'autres, ça sera une perte d'emploi importante et un signe de déclin. Bon, donc, toutes les opinions se croisent et certainement la vérité est entre les deux. Mais enfin, nous allons parler de ce qui concerne cette émission, c'est-à-dire l'architecture et les métiers qui sont autour de cela. Et il y a... Alors, l'informatique, c'est pas quelque chose qui débarque comme dans certains métiers d'une manière, on peut dire, contemporaine, ou du moins ces dernières décennies, puisque on parle de l'ordinateur dans les métiers du bâtiment et aussi de la CAO, c'est la création liée à l'ordinateur et à la machine. Et donc c'est quelque chose qui est assez ancien, on peut dire même c'est des tout débuts de l'informatique. Alors est-ce que cela a changé beaucoup les pratiques du métier ? Alors c'est un sujet assez ambigu parce que je parlerai dans la deuxième partie de la formation de ce métier et d'une manière plus large des métiers artistiques, mais le bilan est assez mitigé. Alors évidemment il y a toujours le docteur tant mieux et le docteur tant pis, enfin ceux qui sont négatifs et ceux qui sont positifs par rapport à cela. Bon, moi... je ne suis pas anti-progrès, mais je vois dans l'irruption de la machine dans ces métiers, d'une part, pas un grand changement sur la finalité, puisque la finalité n'est pas, contrairement à ce que l'on croit trop souvent, et c'est aussi un sujet en soi, la finalité de l'architecte n'est pas de faire des plans, mais la finalité... c'est de construire, et c'est ce qui intéresse les gens. Là où on va habiter, là où on va travailler, là où on va, zone de loisirs, se recréer ou faire du sport, etc. Donc, c'est aussi le dessin de la ville, et la question c'est, est-ce que cela va améliorer les manières de vivre pour les gens ? Donc, on peut dire, l'arrière-cuisine du métier, ça intéresse assez peu les gens, et surtout, quels sont les bénéfices qui ont pu se dégager de l'irruption de l'ordinateur, des logiciels de dessin dans ce métier. Alors... le côté positif, on va en parler tout de suite, il est évident qu'il y a des choses, ne serait-ce que par exemple la transmission de plans qui était quelque chose de, on peut dire, de lent. Il fallait faire ce qu'on appelait les contre-calques pour les envoyer aux ingénieurs, qui les corrigeaient, il fallait réimprimer. Enfin, il y avait toute une démarche fastidieuse par rapport à cela. Et donc, il est évident que l'informatique, par la possibilité de transmission, est en grand progrès. Alors après, les questions, c'est que l'informatique, ça, le travail, ça avait du copier-coller. C'est-à-dire, il y a des informations qui sont données et qui peuvent être reproduites. Alors, effectivement, on peut gagner du temps en faisant cela, mais également, le côté négatif, c'est que on va répéter les mêmes choses et qu'il y aura aussi une tendance à la paresse. Alors, l'informatique ne change pas fondamentalement les choses, parce que avec une paire de ciseaux, de la colle et une photocopieuse, on pouvait arriver à modifier des plans et à faire la même chose, et certainement d'ailleurs plus rapidement que l'informatique. C'est ce que j'expliquais quand j'étais enseignant dans les écoles d'architecture à mes étudiants, c'est que des méthodes tout à fait, on peut dire, enfantines pouvaient faire gagner beaucoup de temps, et que la mise en marche d'un logiciel, je ne parle pas de l'apprentissage qu'il fallait pour le maîtriser, ça demandait beaucoup de temps, et il n'est pas certain que au final de la course on ait gagné beaucoup de temps pour cela. Alors, il y a aussi quelque chose qui est totalement différent, c'est ce qu'on appelle, le terme professionnel, c'est les rendus, c'est-à-dire l'image finale qui est présentée aux utilisateurs, aux clients. Et là, évidemment, on a un changement très important. C'est vrai que l'imagerie 3D permet, et de plus en plus, et même avec l'irruption de l'intelligence artificielle, arriver à rendre des images, on peut dire, c'est le métavers, c'est-à-dire que c'est de là, on peut être... on peut rentrer dans l'image et on a l'impression que on est dans le réel. Alors c'est quelque chose qui est assez troublant, parce que je vois par exemple sur les portfolios d'architectes, il y a un mélange entre les réalisations et les projets non construits et qui ne seront jamais, et on n'arrive pas à voir la différence, parce que tout ça est tellement parfait qu'on arrive à ne pas distinguer l'image du réel. Alors, ça change quoi ? Mais on ne vit pas dans les images. Donc, la finalité de l'architecte, c'est pas de fabriquer des images et des films, mais, encore une fois, je me répète, la finalité, c'est le construire, et c'est ce qui intéresse les gens. Et là, on se trouve devant, effectivement, une confusion, et le côté pervers, c'est que tout le monde peut se permettre de juger l'imagerie. Et puisque en fait on n'a plus d'effort, il fallait lire les plans, c'était compliqué. Il fallait avec des façades imaginer le bâtiment dans la réalité des trois dimensions, et ça demandait un apprentissage, un savoir-faire qui était partagé, bon, qui est toujours partagé d'ailleurs par le milieu du bâtiment. Les entrepreneurs, ils n'ont pas besoin d'images colorées, mais ça se vend, entre guillemets, et c'est aussi quelque chose qui est assez pervers, parce que la maîtrise, justement, de ces sophistications picturales peut induire en erreur, et on a des bâtiments qui sont publiés dans les revues comme des projets qui vont être construits, et puis quand on est sur la réalité, la réalité, elle est tout à fait décevante. Alors ça, c'est un aspect de la chose. Il y en a un autre aspect aussi, c'est que on peut dire la distance qu'il y avait donnée par le métier, justement, qui demandait un vocabulaire et une connaissance de certaines abstractions qui étaient données par les plans et les façades, les coupes qui demandaient une attention. Aujourd'hui, tout ça disparaît et on a l'impression que tout devient facile. Et en fait, tout le monde peut se permettre de juger et il n'y a pas, on peut dire, cet apprentissage nécessaire qui était celui des maîtres d'ouvrage, donc les élus, les promoteurs ou les sociétés de promotion et les services de construction, puisqu'en fait, on a l'impression que tout est facile et ça ne l'est pas. Alors, si on fait un parallèle, par exemple, avec la musique, on peut avoir un jugement sur une œuvre jouée, mais c'est infiniment plus difficile de savoir lire des partitions et l'informatique n'a pas, on peut dire, dans ce domaine-là, par exemple, influencé beaucoup et fait que une sorte de fausse démagogie donne l'accès au domaine musical à tout le monde, ce qui est le cas, et je le regrette, aujourd'hui dans l'architecture par rapport aux maîtres d'ouvrage. Nous allons marquer une pause musicale et puis je parlerai de l'enseignement. Et justement des répercussions de l'informatique et de l'image numérique sur l'enseignement de l'architecture et des arts. Thank you. je voulais donc vous parler de l'enseignement de l'architecture et l'enseignement des arts. Alors d'abord, je dirais que l'enseignement de l'architecture, bon, ça peut intéresser les gens qui nous écoutent par rapport à des jeunes qui veulent faire une carrière dans ces métiers, a une singularité, c'est qu'en fait, c'est un enseignement virtuel. Alors vous allez me dire, oui, mais tous les enseignements sont virtuels. Mais non, justement, c'est que dans les enseignements, par exemple, techniques, d'ingénieurs et autres, on a toujours, il y a des laboratoires de chimie, de physique, on fait des essais, on n'est pas dans la réalité vraiment du métier, mais on est dans un rapport, on peut dire, charnel, matériel, avec le métier. L'architecture, pour des raisons objectives, d'une part, c'est cher, c'est grand, c'est lourd, et surtout, ça prend du temps. C'est-à-dire que le temps d'un chantier n'est pas le temps de l'enseignement. Donc, l'enseignement ne se fait qu'à travers un ersatz qui est le projet d'architecture. Et ce qui est un peu dramatique, c'est que il y a souvent des enseignants qui justement sont passés de l'état d'étudiant à enseignant et qui n'ont jamais construit, mais qui enseignent un métier qu'ils n'ont pratiqué que d'une manière virtuelle et qui, de ce fait, n'est jamais confronté à du réel. Donc c'est toujours compliqué pour juger alors à la fois les dispositions préalables, par exemple, pour sélectionner dans une école d'architecture, puisque on ne fait pas de l'architecture dans l'enseignement secondaire, et donc en plus de ça, que les qualités pour un métier qui est aussi diversifié dans, on peut dire, dans les savoirs qui sont nécessaires pour cela. Donc c'est assez singulier. Alors, il y avait dans les enseignements anciens les épreuves de dessin et aussi la capacité pour un impétrant qui voulait devenir architecte de savoir dessiner, puisque le dessin était la manière de communiquer principale. Et aujourd'hui, effectivement, et c'était le première partie d'aujourd'hui, c'est l'informatique qui a remplacé cela. Donc, on peut dire, on n'a plus besoin de dessiner, puisque l'informatique a remplacé, et il suffit de maîtriser les outils de dessin informatisés qui sont divers et complexes et, comme je vous l'ai dit à l'instant, absolument performants. Mais la question qui se pose aussi d'une manière assez générale, parce que je lisais dans Beaux-Arts Magazine, qui est un mensuel artistique que vous connaissez, mais qui est très connu, il y avait justement cette question de l'enseignement des Beaux-Arts, et il y avait l'École des Beaux-Arts de Paris, avec qui a un comité de sélection, et la présidente, je ne sais pas si la présidente de l'école ou du comité de sélection, disait que ça avait totalement changé et qu'on ne demandait pas aux étudiants d'être bons en dessin, puisqu'on allait leur apprendre. Et elle disait que la sélection se faisait sur la personnalité et sur les gens qui sont les plus originaux. Alors là, je pense qu'on met les choses à l'envers, parce que même si il y a aujourd'hui la science qui sait, et la technique qui a bien amélioré les pratiques des métiers artistiques, il n'en demeure pas moins que il y a une... Alors je ne sais pas quelle est entre l'inné et l'acquis, mais il y a une part, d'inné, et on ne peut pas dire que tout le monde est capable de faire tout. Et dans ce milieu-là, notamment des arts visuels, même si c'est à la mode, même si on a envie de devenir artiste, il faut dire une chose, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes capacités innées. Alors, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question, on peut dire, de disposition, je ne sais pas comment on pourrait dire, génétique, mais en tout cas, par exemple, si on prend l'exemple de la musique que je prenais tout à l'heure, bien, dans la musique, il y a des gens qui ont l'oreille, il y a des gens qui ne l'ont pas. Il y a des gens qui chantent juste, il y a des gens qui chantent faux. Il y a des gens qui ont de la mémoire musicale, qui arrivent à retenir, et puis il y a même des virtuoses dans ces domaines, et puis il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Donc, c'est accepté. Mais il semblerait que dans le domaine des arts plastiques notamment, tout le monde se prétend ou a prétention de pouvoir être artiste, et je pense que ça produit beaucoup de on peut dire, d'échecs au final, et surtout, on peut avoir, par exemple, dans des écoles d'architecture, si on dit que le dessin n'est pas nécessaire et qu'il suffit d'un apprentissage informatique important, c'est une chose qui, à mon sens, est fausse. Alors, il ne s'agit pas d'être virtuose en dessin, mais il y a des dispositions. Alors, autant pour, dans le cas de l'oreille musicale, il y a aussi la même chose avec la mémoire visuelle, et il y a des gens qui ont de la mémoire visuelle, et puis il y a des gens qui ne l'ont pas. Il y a des gens qui ont, par exemple, la mémoire des chiffres. Moi, dans mon cas, j'ai la mémoire visuelle, mais je n'ai pas la mémoire des chiffres. Alors, on la compense à la mémoire des chiffres, mais je pense que la mémoire visuelle, on ne la compense pas. Donc, il y a une disposition que j'ai vue dans mes employés, que j'ai vue dans mes étudiants, c'est-à-dire de gens qui voient, c'est-à-dire à partir d'un plan, bah, ils le voient, ils se promènent dedans, ce qui est absolument nécessaire. Donc on n'a pas besoin du truchement de la 3D, puisqu'en fait, on voit en trois dimensions, et ça, je crois qu'il y a une faculté qui n'est pas donnée à tout le monde et qui... ne peut pas, alors je ne dis pas qu'elle ne peut pas s'en prendre, mais enfin, il y a des dispositions qui sont certainement naturelles et d'autres qui et d'autres qui ne l'ont pas. Donc, cette sélection qui aujourd'hui ne se fait plus par ne serait-ce que l'intérêt, je trouve assez curieux que quelqu'un qui n'a jamais été intéressé par le dessin, par exemple, dans son enfance jusqu'au lycée, etc., et puis qui, tout d'un coup, a envie de venir peintre après le bac, et qu'on puisse dire, ah mais non, ce qui compte, c'est votre personnalité originale. Mais non, il y a un métier, et il y a un métier à acquérir, et puis après, une fois qu'on a maîtrisé le métier, on va voir si on est capable d'avoir l'originalité, entre guillemets, c'est-à-dire une personnalité dans son mode de l'expression. Mais on ne peut savoir cela qu'une fois qu'on a ce métier, et pour avoir le métier, bah, il faut avoir certaines dispositions, et je pense qu'on ne peut pas mettre les choses à l'envers. Donc, aujourd'hui, il y a effectivement un flou par rapport à cela, et je voudrais dire que c'est une tendance générale sur l'époque. C'est-à-dire que le métier, et c'est au cœur de notre histoire de l'intelligence artificielle, on pense que la technique va compenser justement cette absence de disposition d'une part et aussi de métier. Et je crois qu'on se trompe fortement. Mais on le voit dans le domaine général et notamment dans des émissions de vulgarisation de l'architecture qu'on a à la télévision, des émissions qui sont d'ailleurs la plupart du temps très bien faites avec des images. Par exemple, il y en avait récemment sur la construction des châteaux, notamment de Chambord et puis Vaux-le-Vicomte, et également des émissions qui étaient très bien faites. Mais pour, par exemple, prendre l'histoire de Chambord, que l'on peut voir sur Arte, donc vous pouvez les revoir si vous ne les avez pas vues, on avait parlé de Léonard de Vinci, qui était l'inspirateur à la fois du fameux escalier à double hélice de Chambord et aussi du plan de Chambord, Et ça, ça fait partie de ce que racontent les guides et aussi ce que racontent les historiens, dont on a des historiens qui parlent les uns après les autres et qui disent « Ah, c'est Léonard de Vinci qui a dessiné, qui a influencé, etc. » Bon, Léonard de Vinci était mort avant le début de la construction de Chambord. Alors, c'est vrai que tout le monde connaît l'histoire, François Ier et Léonard de Vinci, mais c'est comme Léonard de Vinci est devenu un mythe à la mode du génie touche à tout et qui, à partir de petits croquis dessinés à la plume au coin d'une table, aurait inventé l'hélicoptère, la machine à vapeur, les avions, et qui était un génie universel. Donc c'était de la science-fiction, et que, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas l'idée qui importe, c'est la réalisation. Alors, on peut dire que Icare avait l'idée de l'aviation, mais il s'est planté. Et donc, celui qui a réalisé l'avion, c'est Clément Ader et les frères Vry, parce qu'ils ont volé. Ou les frères Montgolfier, avec la montgolfière et l'air chaud. Donc, ce n'est pas l'idée qui est importante, c'est celui qui la réalise. Et donc, dans les métiers des arts plastiques et de l'architecture, qui est justement le métier le plus matériel qui soit, la seule chose qui compte, c'est la réalité. Mais dans l'esprit général, et je le vois à travers ces propos d'historiens et la diffusion qui en est faite à travers les médias, c'est l'idée de... c'est le croquis sur un coin de table de Léonard de Vinci qui a fait ce gigantesque château d'une grande complexité de construction. Et du coup, l'architecte disparaît et on parle du concepteur, d'une part, alors celui qui a eu l'idée, et puis des ouvriers, c'est-à-dire que les choses seraient passées directement du croquis aux ouvriers, on leur aurait dit, écoutez, vous vous débrouillez et construisez le château. Alors des fois on parle du mot bâtisseur, mais ça revient à peu près au même, mais on ne voit pas qu'il y a un métier qui est très, très lent, très important, qui est, d'arriver à faire une œuvre et de pouvoir juger l'œuvre et non pas l'image avant de l'œuvre ou l'idée de l'œuvre, mais l'œuvre dans sa réalité. Donc, la diffusion à travers certaines images d'architectes contemporains qui jouent uniquement la parole et le discours, et on n'a plus de dessin, uniquement des discours, et effectivement, est une perte importante sur le monde réel. Et comme je l'ai dit dans la première partie de l'émission, nous ne vivons pas dans des images et dans du monde réel. Donc, pour conclure cette émission sur l'imagerie et sur l'intelligence artificielle, oui, ça peut être très utile, mais en fait, ça ne changera en rien la réalité de ces métiers. Et surtout, s'il y a des changements qui ont été faits, ils n'ont pas été dans un côté, me semble-t-il, très positif sur la formation, et que sans être un rétrograde, un passéiste, on peut penser que le retour au dessin et au travail à la main est aussi, n'est pas une régression, mais un savoir-faire qui doit être continué. Et je conclurai ce parallèle que j'avais fait avec la musique. On avait parlé que tout serait remplacé par la musique électronique, mais on voit que les orchestres, c'est toujours des pianistes, des guitaristes, des gens qui soufflent dans des instruments à hanches, et que la musique électronique n'a pas remplacé l'enseignement de la musique, la composition et les instruments traditionnels. C'était « Où vivrons-nous demain ?» Je remercie Sacha qui est au jour à la technique. Et Sophie, qui écoute sagement. À la semaine prochaine.